Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 14 octobre 1962, un avion américain photographie des bases de missiles en construction sur le territoire cubain. Considéré comme le sommet de la guerre froide, cette crise de Cuba est pourtant indissociable de la crise dite de Berlin qui l'a précédée. C'est pourquoi Un jour dans l'histoire vous propose de comprendre ces deux crises sous cet angle unique que fut l'affrontement Est-Ouest, de les comprendre dans leur continuité, d'en mesurer les causes, l'impact et les conséquences sur les relations internationales en général. Et pour ce faire, Un jour dans l'histoire reçoit Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 4 Sorbonne. Vous êtes également vice-président de la commission de publication des archives du ministère des Affaires étrangères. Et bien sûr, naturellement, auteur de nombreux ouvrages sur la question. Je me contenterai de citer les deux derniers. L'Europe de l'Est et de l'Ouest dans la guerre froide, 1948-1953, dans la collection Monde contemporain aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne. Et enfin, le deuxième, qui est dans le cœur de notre sujet, La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest, 1943-1990, aux éditions Fayard. Alors, Monsieur Soutou, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important de revenir sur l'expression même de guerre froide. Quelle est l'origine de cette expression ?
L'origine de l'expression, c'est un article du journaliste américain Walter Lippmann en 1947 pour décrire cette année-là l'état de tension permanente entre l'Est et l'Ouest, et plus particulièrement entre Washington et Moscou. Et il concluait en disant que ce n'est pas une vraie guerre, bien sûr, néanmoins c'est une tension grave, une rupture, d'où l'expression de Cold War, guerre froide. L'expression était tout à fait valable en 1947, dès la guerre de Corée en 1950, elle l'était beaucoup moins. La guerre de Corée a fait entre 2 et 4 millions de morts au total, selon les estimations, et il est évident que la guerre froide n'a pas été froide pour tout le monde. Elle n'a pas été froide pour les Asiatiques, ni pour les Africains par la suite, même si en Europe elle est restée dans l'ensemble sous forme de tension, répondant bien au qualificatif de guerre froide. Il vaut mieux réserver l'expression pour les toutes premières années de ce conflit Est-Ouest, même si, je dois le dire, elle est passée dans l'usage courant, et tout le monde dit couramment la guerre froide pour caractériser cette période de l'histoire. Dans le livre que vous avez cité, j'avais préféré le titre de « Guerre de 50 ans », qui me paraît plus juste, avec les successions de crises et d'ententes relatives correspondant à ce qu'on a connu dans les grandes crises européennes, guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, qui étaient aussi des suites de crises, de tensions violentes, puis de pauses, et de parfois d'armistice même, n'est-ce pas ? Donc,
alors faisons un peu de chronologie. À quand peut-on situer le début de cette fameuse guerre froide ou cette guerre de 50 ans ?
Alors, le début clair, je dirais quasiment officiel, c'est la fin de l'année 1947. Après l'échec de la conférence des ministres des Affaires étrangères des quatre grands pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, conférence qui s'est tenue à Londres en novembre-décembre 1947, qui a complètement échoué. Et ensuite, il n'y a plus pendant longtemps de réunion des quatre vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'étaient plus d'accord sur aucun sujet. En outre, fin 1947, les Américains commencent par leur station de radio officielle, Voice of America, à attaquer pour la première fois assez fortement la politique soviétique, les Soviétiques eux-mêmes redoublant les attaques qu'ils avaient déjà commencé avant, au début de l'année, contre les Américains et, je dirais, en général les Anglo-Saxons à la fin de l'année 1947. À la fin de l'année 1947, on est dans un climat vraiment de guerre froide entre l'Est et l'Ouest. On est en même temps de plus en plus dans un climat de communisation forcée de l'Europe orientale au cours de l'automne 1947. Donc là, les choses sont très claires, c'est absolument évident. Ceci dit, avec le recul, on comprend que les premières tensions qui allaient conduire à cette situation de guerre froide étaient apparues plus tôt, Et en fait, dès que, devant les défaites de l'Allemagne et de l'Italie, les grands alliés avaient commencé à préparer l'après-guerre, dès 1943. Dès 1943, on se rend compte, malgré les réunions, les rencontres, les communiqués officiels triomphants, on se rend compte avec le recul et à la lecture des archives que Américains, Soviétiques et Anglais ne sont pas d'accord sur toute une série de points essentiels, et en particulier le sort à réserver à l'Allemagne et à l'Europe orientale, ce qui va conduire à partir de 1947 à la guerre froide ouverte, si j'ose cette expression.
Alors, vous parliez justement de quatre vainqueurs, et dans notre inconscient collectif, en quelque sorte, la guerre froide, ce sont d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS. Il y a une sorte de raccourci historique, en quelque sorte, qui est fait sur cette question.
Oui, et je veux dire que là, l'historien ne peut pas être d'accord. Il est évident que les Soviétiques et les Américains ont joué un rôle essentiel, mais les Européens ont été très directement concernés par la guerre froide. Les deux Europes, à l'Est comme à l'Ouest. L'Europe de l'Est est évidemment dominée par Moscou et elle participe à la guerre froide contrainte et forcée comme victime. Enfin, elle y participe quand même. L'Allemagne étant elle-même divisée en deux par la guerre froide, comme on sait. Quant à l'Europe occidentale, elle joue sa partie, bien entendu au sein d'une alliance dirigée par les États-Unis, mais sans être du tout, esclave ou même dépendante des États-Unis. Aussi bien la Grande-Bretagne que la France, que la République fédérale d'Allemagne, que l'Italie, par exemple, que les pays du Benelux suivent dans la guerre froide. Certes, la ligne, je dirais, globale du camp occidental, mais en même temps, elles défendent leurs propres intérêts et mènent, à l'intérieur de la guerre froide, avec des hauts et des bas, elles mènent quand même leur propre politique. Donc, on peut dire qu'un pays comme la France, par exemple, a mené avec des hauts et des bas, avec des nuances, parfois des différences importantes avec les États-Unis ou la Grande-Bretagne, a quand même mené d'une certaine façon sa guerre froide. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais la crainte face à la menace soviétique a été suffisamment forte, je dirais, jusqu'à la fin de la guerre froide, pour que les Français, sur le plan militaire, sur le plan du renseignement, sur le plan des options de politique intérieure, dans l'opposition assez générale au Parti communiste, sur le plan de l'évolution des idées et du combat idéologique, les Français ont participé très largement à la guerre froide, même s'ils avaient une position particulière, correspondant à leur situation particulière et à leurs intérêts propres.
Alors, sur le plan des sources, depuis la chute du communisme, on se doute qu'il y a beaucoup plus de documents accessibles. Quelle est la valeur de ces documents et quelles sont les difficultés, à contrario, que peut rencontrer encore l'historien ?
Alors, la valeur des documents qui ont été ouverts incontestablement est variable. Bon, dans les démocraties populaires, y compris la RDA, l'ouverture des documents sont les règles générales d'ouverture des archives après 30 ans, hein, ce qui pour l'Allemagne de l'Est par exemple est gênant. Mais enfin, on ouvre tout, c'est-à-dire les archives du ministère des Affaires étrangères, mais ce qui est encore plus important dans des régimes totalitaires à parti unique, les archives du parti. Car c'est le parti qui décide, c'est le comité central qui prépare les décisions pour un parti communiste, pour un pays communiste, et c'est le politburo ou l'équivalent, c'est l'instance dirigeante qui prend les décisions. Donc si on n'a pas accès aux archives du comité central qui prépare les décisions et aux archives du politburo qui prend les décisions, on n'a affaire qu'aux archives du ministère des Affaires étrangères qui sont des archives, je dirais, d'expertise technique, d'un point de vue très particulier, car il s'agit de présenter en forme juridiquement acceptable pour les pays du monde extérieur, c'est-à-dire pour les pays non communistes, la politique des pays communistes. Et ces ministères d'affaires étrangères ont donc un rôle de présentation juridique, en quelque sorte, et également un rôle d'exécution assez technique. Mais ils participent à la conception, mais ne déterminent pas la conception de la politique, et surtout ne font pas les choix politiques. Or, en Union soviétique, qui est quand même le cœur du problème, les archives du comité central sont moins accessibles que les archives du ministère des Affaires étrangères et les archives du Politburo, sauf exception, sont encore aujourd'hui inaccessibles. Archives du Politburo ou archives présidentielles, qui sont maintenant dans les archives présidentielles, on appelle aujourd'hui en Russie les archives présidentielles, qui renferment les archives du Politburo et les archives du secrétaire général, c'est-à-dire de la clé de voûte de tout le système. Et là, sauf rares exceptions, on n'a pas accès.
Il prévoit une ouverture à terme ou...
Absolument pas. On assiste au contraire depuis quelques années à une refermeture, si j'ose utiliser ce mot, de ce qui était déjà ouvert. La situation est de nouveau beaucoup plus compliquée qu'il y a 5 ou 6 ans.
Donc l'histoire, le chercheur a de l'avenir devant lui et est susceptible de trouver davantage de documents quand ces archives
sont ouvertes. Oui, mais à mon avis dans certaines limites tenant à la nature même d'un système communiste. Et je ne vais pas vous faire un cours sur le communisme comme théorie et pratique, mais il nous apparaît de plus en plus qu'il y avait d'un côté des buts à très long terme et qui étaient quasiment une téléologie, enfin les buts à très très long terme, n'est-ce pas, la victoire du communisme, la fin du capitalisme, ce n'est pas un programme précis, c'est un but à très long terme. Il y avait à très court terme une tactique, et souvent très habile. Mais les objectifs intermédiaires, les objectifs stratégiques intermédiaires, entre la tactique à court terme, qui pouvait changer très rapidement, et une sorte d'objectif vraiment téléologique et théologique à la fois à très long terme, l'entre-deux manque un peu. Ici, à mon avis, on ne le trouvera pas beaucoup dans les archives, pour une raison très simple, c'est qu'il n'existe pas dans le système de décision d'un parti communiste. Je vous présente là un avis qui n'est peut-être pas partagé par tous mes collègues, mais je ne suis pas certain que l'on trouvera jamais l'équivalent des archives dont on dispose pour le monde occidental, avec une stratégie claire, des objectifs à court, moyen et long terme, clairement hiérarchisés, les moyens pour y parvenir, enfin les éléments d'une politique extérieure raisonnée.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Jean Issoutou, spécialiste des relations internationales contemporaines.
Nous disions tout à l'heure que le conflit de la guerre froide ne se limitait pas à un affrontement américano-soviétique. Et un des lieux de cet affrontement est en effet l'Allemagne, qui est à l'époque est divisée. Pourriez-vous nous retracer ce contexte de cette Allemagne ?
Alors, l'Allemagne est donc vaincue en 1945. Le 5 juin 1945, par une déclaration commune, les quatre pays vainqueurs dont nous parlons depuis le début ont assumé l'autorité suprême en Allemagne. Il n'y a plus d'État allemand, il n'y a plus de Reich allemand, il n'y a plus de souveraineté allemande. Ce sont les quatre qui doivent en principe gérer ensemble l'Allemagne. Les accords de Potsdam de juillet-août 1945 prévoient la réorganisation d'une Allemagne démocratisée et dénazifiée, qui devrait être doté en principe dans les 2 ans, pense-t-on, sans que ce soit mis noir sur blanc, d'un gouvernement démocratisé dans une Allemagne complètement rééduqués, reformés, qui signeraient ensuite un traité de paix avec les Alliés. La seule chose, c'est qu'on n'est pas arrivé à faire fonctionner ce qui avait été prévu à Potsdam. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les quatre ne sont pas entendus sur l'Allemagne, essentiellement parce que les Soviétiques ne voulaient pas, en fait, lâcher leur contrôle sur l'Allemagne. Ils tenaient déjà leur zone d'occupation et ils voulaient, en outre, étendre leur influence vers le reste de l'Allemagne, c'est-à-dire vers les zones d'occupation occidentales, persuadés qu'ils étaient, que les Américains allaient assez vite évacuer l'Europe, que les Anglais et les Français ne feraient pas le poids ensuite devant eux, qu'ils pourraient donc contrôler toute l'Allemagne. Comme dès 1946, les Américains et les Britanniques ont compris la stratégie soviétique visant à contrôler l'ensemble de l'Allemagne, la stratégie de Staline visant à contrôler l'ensemble de l'Allemagne, ils ont préféré à ce moment-là, même s'ils ne pouvaient pas le dire trop ouvertement des raisons, je dirais, politiques à l'égard des Allemands eux-mêmes. Ils ont préféré encore la division, au moins provisoirement, pour en quelque sorte sauver les meubles, au moins sauver les zones d'occupation qu'ils détenaient, l'Allemagne de l'Ouest. C'est pour ça qu'en 1949, les alliés occidentaux suscitent la création de la République fédérale d'Allemagne, tandis que, immédiatement après, soviétiques président à la création de la République démocratique allemande. C'était d'ailleurs en cours depuis 1948 des deux côtés. Hein. C'est un processus qui a pris 18 mois à peu près, 18 mois, 2 ans. En fait, il y a à partir de ce moment-là deux États allemands, mais on croit que la réunification allemande aura lieu, n'est-ce pas? Il faudra attendre, je dirais, le milieu des années 50 pour que l'on comprenne que la réunification allemande ne pourrait pas avoir lieu rapidement et que la situation resterait figée dans la division de l'Allemagne très longtemps, voire toujours, ce qui, entre nous, arrangeait par exemple assez bien les Français et les Britanniques, n'est-ce pas? Mais entre 1949 et 1955, je dirais à court terme, dans la perspective d'une éventuelle réunification, et même après 1955 à plus long terme, l'Allemagne reste l'enjeu clé de la guerre froide. L'enjeu entre les deux camps, par sa situation géographique, par sa population, par sa puissance industrielle, économique, scientifique et technique. J'ajoute ici pour me faire comprendre que dans les années 60, le potentiel combiné industriel, technique, de la France et de l'Allemagne fédérale était probablement supérieur, on s'en rend compte aujourd'hui, au potentiel soviétique. Le fait que les Français et les Allemands préféraient construire des voitures et des frigidaires que des chars d'assaut ou des canons ne change rien à l'affaire. Il y avait un potentiel industriel considérable dont les Soviétiques étaient extrêmement conscients. Et pour eux, le problème était d'empêcher les Occidentaux d'utiliser le potentiel allemand contre eux, même s'il n'en était pas question. Les Occidentaux ne pensaient pas déclencher une guerre un jour contre l'Union soviétique, mais les Soviétiques le craignaient dans leur vision du monde d'opposition absolue au camp occidental, ils ne pouvaient pas ne pas le craindre, et ils voulaient au contraire, eux, dans toute la mesure du possible, mettre un jour le potentiel allemand de leur côté. C'est pour ça que l'Allemagne est un enjeu fantastique, et la crise de Berlin, la deuxième, il y en a eu une première en 1948, mais bon, on n'en parle pas, mais la deuxième à partir de novembre 1958, en fait, elle dépasse Berlin. C'est ça le point essentiel. Elle touche à l'ensemble du problème allemand.
Alors, nous sommes, comme vous le dites, en 1958. Resituons les personnages. Il y a un personnage de taille. C'est le fameux Khrouchtchev. Alors, vous le décrivez dans votre livre comme un homme assez contradictoire.
Tout à fait. Et c'est à la fois un bolchevique, je dirais, du type le plus endurci, qui doit sa carrière à Staline, qui l'a aidé dans les opérations les plus brutales, comme par exemple en Ukraine, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, c'est celui qui, pour beaucoup de raisons diverses, va essayer, en 1956, de déstaliniser le système. Et dans le fameux discours secret qu'il a prononcé au 20e congrès de 1956, il va même dévoiler et condamner un certain nombre, pas tous, loin de là, mais un certain nombre des crimes de Staline.
Vous écrivez, Georges-Henri Soutou, que la crise de Berlin concernait le front central de la guerre froide. On ne peut pas dire mieux de l'importance de l'Allemagne dans la guerre froide. Quelle fut justement la nature de la politique russe ? Est-ce une offensive russe ? Peut-on parler dans la crise de Berlin d'une action défensive ? Quels sont les objectifs de Khrouchtchev finalement dans cette crise ?
Eh bien, les deux. Comme souvent d'ailleurs avec la politique soviétique. Il y a un aspect défensif qui peut nous paraître curieux, mais qui est très sincère, qui existe, qui est sincèrement. On est conscient des faiblesses de la RDA. On sait très bien que, sur le plan économique, elle ne vaut pas l'Allemagne de l'Ouest, sans compter qu'elle est beaucoup moins peuplée. Enfin, c'est un petit pays à côté de la République fédérale. D'autre part, on sait bien que, sans la présence soviétique, le communisme est-allemand ne tiendrait pas seul longtemps. Donc, on redoute que la République fédérale, appuyée par les Occidentaux, n'essaie un jour de remettre en cause la division, voire par des moyens militaires. Moscou, on le redoute. Ou au moins par une sorte d'absorption économique de la RDA. Les soviétiques, on le sait, étaient très inquiets du développement progressif des échanges économiques entre les deux Allemagnes. Et ils craignaient que la RDA soit en quelque sorte aspirée dans l'orbite économique ouest-allemande. Et qu'un jour cela ne débouche sur une sorte de prise de contrôle politique, ou du moins de dérive politique, voire politico-militaire. À côté de ça, il y a un aspect offensif. Comme toujours dans ce système, n'est-ce pas ? Parce qu'on réagit dans une situation dangereuse, à la fois par une défensive, mais par une contre-offensive, en quelque sorte. Et l'aspect offensif, ce serait d'utiliser la crise de Berlin, dont on va parler, pour remettre en cause tout le statut de l'Allemagne, et pour distendre les liens entre la République fédérale et les Occidentaux. Une phrase très claire, si les Occidentaux lâchent sur Berlin-Ouest et acceptent d'évacuer Berlin-Ouest, comme les Soviétiques l'exigent à partir de novembre 1958, les Occidentaux n'auront plus de soutien et plus d'alliés en République fédérale. Les dirigeants ouest-allemands, si les Occidentaux abandonnent Berlin, se sentiront trahis, auront peur pour leur avenir, et iront trouver, se précipiteront à Moscou, n'est-ce pas, pour négocier en quelque sorte une reddition aussi honorable que possible. Ce serait la fin de l'Allemagne de l'Ouest, fermement liée au monde occidental. Ça, c'est l'aspect offensif. Premier point. Deuxième point, les gens de l'Est sont divisés sur cette question. Les Allemands de l'Est, avec Ulbricht en particulier, le chef de l'Allemagne de l'Est, sont sur la défensive. Ils craignent beaucoup l'influence de la République fédérale dans leurs propres affaires parce qu'ils connaissent trop bien la faiblesse profonde de la RDA, y compris psychologiquement dans la population. En revanche, et certains à Moscou, je dirais les plus prudents, les plus conservateurs à Moscou, pensent qu'il faut avant tout garantir la RDA, donc éliminer tout danger provenant d'Allemagne de l'Ouest, en particulier par l'intermédiaire de Berlin-Ouest, cette enclave occidentale au milieu de la RDA, il faut se souvenir que Berlin est au milieu de la RDA et que la partie occidentale est une vitrine capitaliste, prospère, brillante au sens même matériel du terme, dans la grisaille communiste.
Et le lien ne se limitait pas à un pont aérien comme...
Ça c'est fini, depuis 1949, on circule par train, chemin de fer, avion, entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest, par autoroute également, bon... Donc, c'est vraiment une présence occidentale au cœur de l'Allemagne de l'Est, avec même une conséquence très précise. Un Allemand de l'Est qui veut quitter l'Allemagne de l'Est, il n'a qu'à passer à Berlin-Ouest, c'est très facile.
Le mur de Berlin n'est pas encore
non,
là.
Le mur de Berlin n'existe pas. Et ils perdent, à la fin de la crise de Berlin, avant la construction du mur, les Allemands de l'Est perdaient 2000 personnes par jour, ce qui fait 600 000 par an, ou même 700 000 par an. Et en particulier des gens qualifiés, des médecins, des ingénieurs, enfin, que l'Allemagne de l'Est avait eu évidemment du mal à former. Donc, pour Ulbricht, pour les gens conservateurs à Moscou, il faut crever l'abcès et donc absorber Berlin-Ouest et tout simplement l'incorporer dans l'Allemagne de l'Est, en chasser les Occidentaux, de façon à colmater la brèche. Pour d'autres, et Khrouchtchev oscille un peu entre les deux lignes, n'est-ce pas ? Pour d'autres, il faut être plus astucieux. Il faut utiliser le levier de Berlin pour introduire un coin entre les dirigeants ouest-allemands et l'occidentaux. De façon, ce qui signifie par exemple qu'on n'a pas intérêt à annexer Berlin-Ouest. Parce que alors, si on annexe brutalement Berlin-Ouest, on ne trouvera plus d'Allemands de l'Ouest pour négocier. Il faut être habile, il faut prévoir des solutions plus habiles. De façon à conduire les Allemands de l'Ouest eux-mêmes à préférer discuter avec Moscou de leur avenir en laissant se distendre leurs liens avec les capitales occidentales, permettant à l'Union soviétique de prendre progressivement le contrôle, au moins de la politique extérieure allemande. D'où les propositions, sous forme d'ultimatum, faites par Khrouchtchev en novembre 1958.
Le 10 novembre, en fait.
10 novembre 1958, Berlin-Ouest, ville libre. Ville libre, en quelque sorte une troisième Allemagne, qui ne serait pas liée à l'Allemagne de l'Ouest, qui ne serait pas cependant englobée par l'Allemagne de l'Est, mais qui serait évacuée par les forces, par les garnisons occidentales à Berlin. Ce Berlin-Ouest, ville libre, serait par la suite un instrument de pression permanent sur l'Allemagne de l'Ouest, n'est-ce pas, de la part des soviétiques, les occidentaux n'étant plus là pour veiller au maintien de la liberté de Berlin-Ouest. Donc ce serait un instrument de chantage permanent. C'était ça que les soviétiques avaient en tête, avec déjà une première formule qu'ils proposent dès le début de l'année 1959 pour régler le problème allemand, une confédération des deux Allemagnes. Mais dans la formule d'une confédération entre les deux Allemagnes, pas dit une réunification, j'ai dit une confédération. Dans la formule d'une confédération des deux Allemagnes, il y a une chose qui est très claire, l'Allemagne de l'Est reste communiste, avec les troupes soviétiques d'ailleurs, mais reste communiste. Quant à l'Allemagne de l'Ouest, eh bien, elle est à ce moment-là obligée d'abandonner ses liens avec les Occidentaux, qui ne pourraient d'ailleurs même pas envisager d'être étroitement unis avec un pays qui serait en confédération avec une démocratie populaire, n'est-ce pas ? Ce qui fait que cette formule d'une confédération entre les deux Allemagnes n'est qu'une pseudo-réunification, mais en même temps, elle réussit à stériliser, elle suffit à stériliser, ou elle aurait suffi à stériliser les liens entre l'Allemagne de l'Ouest et les Occidentaux. Donc à affaiblir la construction européenne, je rappelle que le marché commun commence à fonctionner le 1er janvier 1959, et l'Allemagne en est un élément essentiel, ça reviendrait à affaiblir l'Alliance Atlantique, dont l'Allemagne fait partie depuis 1955, dont elle constitue le front central, alors là, au sens stratégique du terme, et sur le plan militaire, dont elle commence progressivement avec son armée en construction, en développement, à devenir aussi un maillon essentiel. C'est tout l'enjeu de la crise de Berlin.
Alors, devant cet ultimatum, comment réagissent les Occidentaux ?
Eh bien, assez faiblement, et en outre, ils se divisent. Bon,
Pourtant, vous écrivez, Khrouchtchev sous-estime malgré tout l'adversaire.
Oui, non, mais parce que, malgré tout, mais à mon avis, il aurait été plus habile, il aurait pu obtenir plus. Bon, les Français sont les plus fermes dans la crise de Berlin. Ils disent tout de suite, il n'y a pas de concession à faire aux Soviétiques. Les Anglais disent tout de suite, il faut faire des concessions. Les Allemands eux-mêmes sont assez hésitants, en fait. Ils sont contents que les Français les appuient, mais ils sont quand même hésitants et ennuyés parce qu'ils se rendent compte que les Occidentaux ne vont peut-être pas les soutenir à fond. Et ils ne voudraient pas rester en quelque sorte aux avant-postes, n'est-ce pas, sans être soutenus. Les Américains hésitent. Ils sont évidemment hostiles à la politique soviétique, mais en même temps, ils sont conscients d'une chose qui est tout à fait exacte, qui va compliquer la position des Occidentaux. Sur le plan juridique, la position des Occidentaux à Berlin n'est pas très bonne, parce que les accords de 1945 réglaient le problème du ravitaillement des garnisons occidentales à Berlin-Ouest à partir de l'Allemagne de l'Ouest à travers le territoire de la RDA, mais ne disaient rien du trafic civil des Berlinois de l'Ouest, de leur ravitaillement, de leur passage à l'Ouest, etc. Tout simplement parce qu'en 1945, on pensait que cette occupation durerait 2 ou 3 ans tout au plus, et on n'allait pas envisager même ces problèmes, on n'y a pas pensé. Il n'y a rien dans les textes. Donc les Soviétiques peuvent à tout moment rétablir le blocus, c'est la grande crainte, n'est-ce pas, pendant toute la crise de Berlin de 1958, que les Soviétiques nous rétablissent le blocus, que les Occidentaux soient alors devant l'alternative suivante, ou bien céder, et donc ils perdent Berlin-Ouest, et on retombe dans ce que je vous disais tout à l'heure, l'Allemagne de l'Ouest leur échappe tôt ou tard, ou bien ils font la guerre. Alors, vous allez me dire, ils préfèrent un pont aérien comme en 1948, mais ce n'est plus possible. En 1948, on pouvait se contenter de transporter de la nourriture et un peu de charbon pour chauffer les Berlinois. Mais en 1958, la ville a repris son activité économique. Il faudrait transporter des matières premières, remporter des produits finis. Ce n'est plus concevable. Un pont aérien, techniquement, ne fonctionnerait plus, même si on continue à le préparer au cas où. Mais il n'aurait plus du tout le même impact qu'en 1948-49. Donc, il faudrait faire la guerre. Alors, on étudie des scénarios. Il y a une organisation américano-britannico-française qui s'appelle Live Oak.
La planification Live Oak, oui.
La planification qui prévoit les différents cas de figure. Et on arrive à une conclusion. Étant donné que Berlin Ouest est en plein cœur de la RDA au milieu de 30 divisions soviétiques, la seule façon de maintenir les accès, c'est d'utiliser le cas échéant l'arme nucléaire. Et l'utilisation de l'arme nucléaire débouchera immanquablement sur une guerre nucléaire généralisée qu'on n'est pas prête, qu'on n'a pas envie de faire pour Berlin, quel que soit l'enjeu de Berlin. Donc, les Occidentaux sont très ennuyés parce que les conséquences possibles d'une escalade militaire sont effectivement effrayantes, parce que le dossier juridique n'est pas très bon. D'où la conférence de Genève des ministres des Affaires étrangères de 1959, qui essaie d'envisager des solutions négociées. Les Occidentaux négocient, on essaie d'envisager des solutions négociées. D'où la rencontre entre Eisenhower et Khrushchev à Camp David au mois de septembre 1959, au cours de laquelle se produit sans doute une sorte de malentendu. Eisenhower déclare que la situation de Berlin-Ouest n'est pas normale. Je crois qu'il a pris ça au sens premier. C'est pas normal d'avoir une capitale divisée, séparée d'un pays. Bon. Et il semble que Khrushchev ait compris ça comme une ouverture vers des concessions de la part des Américains. Dans le sens même du mot normal pour un soviétique, une situation anormale, n'est-ce pas, c'est ça. Bon. La seule chose, c'est que ce que voulait dire Eisenhower, c'est que le dossier juridique n'était pas bon, qu'il fallait donc parvenir à des accords garantissant le trafic civil entre Berlin-Ouest et la République fédérale pour permettre à la ville de survivre, que pour obtenir cet accord, les Américains pouvaient faire des concessions, mais des concessions limitées, ne remettant absolument pas en cause la présence des Occidentaux à Berlin et la présence de leur garnison à Berlin. Il y a eu donc un malentendu qui débouche alors là sur le rebondissement de la crise en 1960 avec le sommet avorté de Paris en mai 1960, n'est-ce pas ?
Avorté parce qu'un avion américain a été...
Avorté parce qu'un avion espion américain U-2 est abattu par la missile solaire soviétique. L'avion avait volé le 1er mai. On espérait que les équipages de fusées soviétiques seraient ivres-morts et laisseraient passer l'avion, n'est-ce pas ? Manque de chance, l'avion est abattu. Ce n'est pas le premier, d'ailleurs. Depuis 1947, les Américains survolaient régulièrement l'Union soviétique. Il y avait probablement plus de 100, à peu près 140 pilotes américains prisonniers du Goulag, n'est-ce pas ? On passait son temps à survoler l'Union soviétique et on se venait souvent descendre. Pour quelle raison Khrushchev a-t-il décidé d'en faire là une crise majeure conduisant à l'échec d'un sommet à Paris entre les quatre grands qui normalement, on ne fait pas l'histoire, mais qui aurait pu conduire.
Il laisse passer une occasion.
Il laisse passer une occasion de concession occidentale, n'est-ce pas ? Alors, pour quelle raison ? Alors, il y a deux raisons principales qui sont données sans qu'on puisse vraiment là les départager. La première, c'est une certaine opposition interne. On lui reproche d'être justement trop prêt à négocier avec les Occidentaux sur Berlin au lieu de tout simplement s'emparer de la ville pour crever l'abcès. Et puis, il y a un autre facteur qui est de plus en plus important depuis 1958, c'est la rupture avec la Chine, qui n'est pas encore officielle, mais qui est déjà réelle, qui introduit déjà au sein du mouvement communiste international une tension et une rivalité entre Khrushchev et les Chinois. Et Khrushchev ne peut pas se permettre au sein du mouvement communiste international de paraître, disons, trop accommodant envers les Occidentaux, accommodant dans le sens communiste du terme, pas dans notre sens à nous, n'est-ce pas ? Trop accommodant face à la ligne dure suivie par les Chinois contre la coexistence pacifique. Alors, il est possible que le problème chinois ait également conduit Khrushchev à faire avorter la conférence de Paris pour ne pas paraître trop mou. D'autre part, à partir du moment où il décidait de rendre public la destruction de l'U2, il se piégeait lui-même. Les précédentes attaques ou destructions d'avions américains d'observation n'avaient pas fait l'objet de communiqués officiels. Donc, à la limite, pas vu, pas pris. Non. Mais là, à partir du moment où on l'a dénoncé publiquement, on est engagé. Si jamais on laisse passer la chose, alors là, évidemment, on donne prise aux Chinois pour critiquer une forme de faiblesse à l'égard des Occidentaux. Donc, c'est l'échec de la conférence de 1960 de Paris. La réunion suivante, c'est en juin 1961 à Vienne, entre Khrushchev et le nouveau président américain, Kennedy. Et c'est là surtout que Khrushchev a fait une mauvaise appréciation, n'est-ce pas, de la personnalité de Kennedy, qu'il a trouvé jeune, inexpérimenté. Kennedy sortait en plus du fiasco de la baie des cochons au mois d'avril, cette opération de la CIA contre Castro qui avait échoué lamentablement, n'est-ce pas, il était déstabilisé. Et à Vienne, Khrushchev renouvelle brutalement son ultimatum à propos de Berlin et pense que Kennedy va capituler ou céder rapidement.
C'est peut-être un des points les plus intéressants, en tous les cas, de votre livre, Georges-Henri Soutou, c'est que vous montrez ce personnage Kennedy comme un activiste. Et ce n'est pas le calme Eisenhower, c'est un homme, au contraire, finalement, qui est plus l'ancêtre de George Bush que dans la continuité d'Eisenhower.
C'est tout à fait exact. Eisenhower estimait que, en bon militaire, l'affrontement nucléaire au sommet était ingérable, ou serait ingérable, se traduirait par des destructions énormes, sans résultat les justifiant le moins du monde. Les armes nucléaires devaient donc être uniquement considérées comme des armes de dissuasion, pour empêcher l'autre camp de se livrer à une forme de chantage, voire même d'attaque nucléaire. Mais en dessous de ce seuil nucléaire, ce qui comptait pour Eisenhower, c'était des opérations indirectes menées par les services secrets, et de façon à ne pas impliquer l'armée américaine sur le terrain, en tout cas le moins possible. Alors, il a déstabilisé Mossadegh en Iran, il a réglé une situation avec Arbenz au Guatemala par l'intermédiaire des services secrets. Ça, c'est la méthode Eisenhower, n'est-ce pas ? Kennedy est plus activiste. Il veut à la fois négocier avec l'Union soviétique, même par-dessus la tête des Européens.
Exactement, vous parlez d'une certaine forme d'hubris et d'unilatéralisme, pardon, et même d'impérialisme.
Non, mais ça, tout à fait, il y a là un changement profond qui se fait, c'est une nouvelle génération qui n'a pas connu, ou pas au même point en tout cas, les solidarités du temps de la Deuxième Guerre mondiale avec les Européens, n'est-ce pas ? C'est une nouvelle génération avec un projet très ambitieux. Il s'agit de soumettre l'Union soviétique au double régime de la carotte et du bâton. La carotte, ce sont les négociations qu'on lui offre, y compris sur l'Allemagne et sur Berlin d'ailleurs. Après l'affaire du mur de Berlin, on y reviendra. Et le bâton, c'est une compétition technologique et une compétition dans le tiers-monde que l'Union soviétique ne pourra pas soutenir à cause de la faiblesse de l'économie et qui devra l'amener un jour à baisser les bras, à mettre les pouces, à accepter de se réformer pour pouvoir réformer son économie et être plus efficace, donc à se libéraliser, donc à devenir un partenaire convenable. C'est ça le grand projet de Kennedy. Et on encadrerait ça par une série de négociations avec l'Union soviétique, n'est-ce pas, carotte-bâton, pression, compétition et en même temps négociation. L'objet de ces négociations devant d'abord être le nucléaire. L'idée qu'il fallait en priorité négocier avec les soviétiques pour réduire le danger d'une guerre nucléaire entre les deux pays. Alors, toute cette stratégie de Kennedy, Khrushchev ne l'a pas comprise, ne l'a pas perçue. Pendant l'été 1961, après la rencontre de Vienne, Kennedy prend des mesures militaires, envoie des renforts en Europe, mobilise une partie de la garde nationale. C'est extrêmement sérieux. Au cours de l'été 61, la tension est telle autour de Berlin qu'on peut vraiment craindre une guerre. Puis le 13 août 1961, brutalement, sa construction du mur. Et au fond, Khrushchev a trouvé une solution qui lui permettait de donner satisfaction en partie à l'Allemagne de l'Est, puisque du coup, il n'y avait plus de possibilité de passage des Allemands de l'Est vers Berlin-Ouest. Donc c'était la fin, de la fuite permanente des Allemands de l'Est. En même temps, comme ils n'annexent pas Berlin-Ouest, les Occidentaux peuvent l'accepter, ils protestent, mais en fait ils sont soulagés, parce que cette formule du mur vaut mieux pour eux que ce qu'ils craignaient par-dessus tout, ce qui était un nouveau blocus, voire une invasion pure et simple, une occupation pure et simple de Berlin-Ouest. Donc les Occidentaux sont plutôt soulagés. Ulbricht a partiellement satisfaction, même s'il aurait voulu qu'on mette carrément la main sur Berlin-Ouest. Les Soviétiques colmatent la brèche, font la preuve de leur puissance, évitent un conflit généralisé. Khrouchtchev a trouvé une formule qui, de son point de vue, n'était pas, disons, pas mauvaise, n'est-ce pas ? Bon, même si la vision du mur traversant Berlin a eu à long terme sur la psychologie des peuples occidentaux un effet dévastateur pour le prestige de l'Union soviétique, bien entendu. Alors, les Américains, je vous l'ai dit, sont presque soulagés par rapport à ce qu'ils craignaient. Du coup, à partir de l'automne 1961 et jusqu'en mars 1962, ils font aux Soviétiques toute une série de propositions qui ont mis les Allemands et les Français en particulier dans un état de fureur avancé, n'est-ce pas ? Parce qu'il s'agissait de rien moins, je passe sur les détails, hein, il s'agissait de rien moins que d'établir une sorte de condominium américano-soviétique sur la question de Berlin, sur les affaires allemandes et même au-delà sur la question européenne. Là aussi, ça faisait partie du système que j'ai décrit comme le système carotte-bâton, n'est-ce pas ? Compétition avec l'Union soviétique, mais en même temps, on l'engage dans toutes les affaires européennes pour la contrôler, et dans l'idée qu'on la forcerait un jour à lâcher prise à plus long terme, n'est-ce pas ? Mais en se moquant absolument de savoir si les Européens occidentaux seraient d'accord ou pas avec cette stratégie, même si on faisait semblant de les tenir plus ou moins informés. Et alors là, le grand mystère qui encore aujourd'hui n'est pas résolu, on peut faire des hypothèses, mais on n'a pas de certitude, c'est pourquoi Khrouchtchev, en mars 1962, ne saute pas sur les propositions que lui font les Américains et qui reviennent à, permettre à l'Union soviétique de dire son mot sur toutes les affaires, non seulement de Berlin, mais de l'Allemagne et même en fait de l'ensemble de l'Europe, en donnant à l'Union soviétique une sorte de statut d'égalité avec les États-Unis. N'est-ce pas ? Alors pourquoi l'accepte-t-il pas ? Pourquoi, dès le mois d'avril, donc 15 jours après, commence-t-il le processus qui va conduire à l'envoi, entame-t-il le processus qui va conduire à l'envoi d'une force très importante soviétique à Cuba, accompagnée d'armes nucléaires ? N'est-ce pas ? La chronologie là, est très frappante. Pour quelles raisons ? Il n'y en a que deux explications possibles. Ou bien il ne fait pas confiance aux Américains, parce que dans son système de pensée, il ne peut pas comprendre la stratégie de Kennedy que j'ai essayé de décrire, qui était évidemment à long terme risquée pour l'Union soviétique, mais qui en même temps présentait des opportunités. Ça se jouait à deux, mais ça, il n'a pas su jouer ce jeu-là, c'est possible. Une autre explication, qui n'exclut d'ailleurs pas la première, c'est que, comprenant cela comme un signe de faiblesse de la part de Kennedy, il se dit « je vais obtenir encore mieux en agissant à Cuba ». C'est aussi une possibilité. Car les crises de Berlin et de Cuba sont très étroitement liées. Aujourd'hui, on a tendance à dire que la crise de Berlin s'arrête avec la construction du mur, le 13 août 1961. Le mur est construit, pour ce fini, on n'en parle plus. Ce n'est pas du tout exact. Les Soviétiques maintiennent leur ultimatum. Ils veulent toujours que les Occidentaux...
La question allemande est toujours en toile de fond.
La question allemande, la question de Berlin est toujours ouverte.
Et Raymond Aron l'a très bien compris.
Non, mais la question de Berlin est toujours ouverte. La question allemande est toujours ouverte. Et on passe de la crise de Berlin à la crise de Cuba, en fondu enchaîné. Et je dirais même que la crise de Berlin ne disparaît jamais à l'intérieur même de la crise de Cuba. Ce sont des perceptions qu'on a parce que les historiens doivent bien, de façon pédagogique, rédiger les chapitres avec des titres, n'est-ce pas ? Mais les deux ont lieu exactement ensemble. Alors, il n'est pas pensable, étant donné qu'on est au milieu de la crise de Berlin et que la crise de Cuba commence au cours du printemps et de l'été, en fait, 1962, il n'est pas pensable que dans l'esprit des Soviétiques, il n'y ait pas un lien, même si ils ne le disent pas, bien sûr, publiquement, parce qu'on est au milieu de deux crises à la fois, au cours de l'été 1962, et encore plus de l'automne 1962.
Alors, Un jour dans l'histoire reçoit Georges-Henri Soutou, professeur à la Sorbonne et spécialiste des relations internationales. Nous arrivons donc à la crise, à la fameuse crise de Cuba, et Khrouchtchev, en fait, au départ, tient à garder le secret sur l'envoi de ces bateaux et de ces têtes nucléaires sur l'île de Cuba.
Alors, d'abord, premier point, on a cru longtemps qu'il avait envoyé 10 000 hommes. Il en a envoyé 50 000. On a cru qu'il s'était contenté d'envoyer des armes nucléaires stratégiques, qui peuvent avoir un rôle de dissuasion. On a appris, il n'y a pas si longtemps, qu'il a envoyé également des armes nucléaires tactiques, qui avaient pour but de démolir un éventuel débarquement américain.
Et qui avaient donc une portée beaucoup plus grande.
Oui, non, beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible, pour détruire des troupes de débarquement américaines. Et là, qui étaient faites pour être utilisées. Les armes nucléaires tactiques, dans ce sens-là, elles étaient faites pour être utilisées. Elles n'entraient pas dans une logique de dissuasion. Alors, pour quelles raisons Khrouchtchev se livrait-il à une opération aussi risquée? Et je répondrai par là à votre question. Premier point, il est convaincu, et il n'a pas tort, on le sait maintenant, que Kennedy cherche la première occasion pour renverser Castro, qui est devenu, depuis 1960, un allié de plus en plus étroit de l'Union soviétique, qui est considéré par Moscou comme un pion essentiel en direction de l'Amérique latine et qui n'est pas question de laisser tomber. Donc, le débarquement, le positionnement enfin, de forces soviétiques à Cuba a pour premier objectif de garantir la survie de Castro, que les soviétiques croient menacé, et on sait aujourd'hui qu'il l'est effectivement, même si Kennedy n'a jamais pris la décision de détruire Castro, il a demandé que tout soit prêt pour le faire rapidement, y compris des rassemblements d'avions de transport pour les parachutistes, etc., si on donnait l'ordre. Premier point. Deuxième point. Khrouchtchev est conscient de l'infériorité en termes de fusées intercontinentales des soviétiques. En revanche, les soviétiques disposent de centaines de fusées à portée intermédiaire qui ne peuvent pas atteindre les États-Unis à partir de l'Union soviétique, mais qui peuvent très bien atteindre la moitié du territoire américain à partir de Cuba. Donc en plaçant ces fusées à Cuba, les soviétiques gênent les États-Unis sur le plan nucléaire stratégique de façon considérable. Et comme le dit Khrouchtchev, dans un langage que les auditeurs voudront bien excuser, on va mettre un hérisson dans le slip de l'oncle Sam, n'est-ce pas, avec ses fusées nucléaires. Donc toujours le contexte défensif-offensif, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier le contexte défensif, mais aussi un contexte offensif. L'idée étant probablement, et c'est pour ça que le secret ne doit être conservé que quelques jours, finalement. Les Soviétiques savent bien qu'ils ne pourront pas le conserver indéfiniment, le secret de l'installation des fusées nucléaires à Cuba. L'idée, c'est d'arriver à conserver le secret tant que l'installation n'est pas achevée, tant que les armes ne sont pas opérationnelles, c'est-à-dire peut-être une semaine, 15 jours, ce moment-là. Puis à ce moment-là, on proclame solennellement que des armes nucléaires soviétiques sont installées à Cuba, qu'elles sont prêtes, donc elles deviennent dissuasives, les Américains n'oseront plus agir. Et on dit aux Américains très publiquement, écoutez, voilà, vous voulez qu'on retire ces armes de Cuba? Alors il faut négocier. Il faut négocier surtout Cuba, mais aussi Berlin.
Alors nous sommes à la mi-octobre, quelle est la réaction des Américains?
Alors les Américains donc découvrent le poteau rose le 14 octobre, comme vous l'aviez dit au début de l'émission, grâce à un avion d'observation. Et à ce moment-là, ils vont s'organiser pour discuter en permanence toutes les options pendant une dizaine de jours, n'est-ce pas? Ça va durer 15 jours, la crise va durer 15 jours, en fait. Bon. Et il y a, disons, trois grandes options. Il y a quatre grandes options. Bon, ou bien on négocie. Certains disent ben, voilà, il faut négocier pour, avec les Soviétiques pour écarter la crise. Ça, Kennedy n'en veut pas. Il refuse la négociation. Ou bien, disent certains, il faut bombarder immédiatement les installations soviétiques à Cuba pour écarter le danger. Alors là, il y a un problème. Si ces fusées sont déjà opérationnelles, c'est extrêmement dangereux comme opération parce qu'elles risquent d'être lancées, n'est-ce pas? Et la CIA croit, et on sait maintenant qu'elle avait raison, que certaines fusées étaient déjà opérationnelles. Donc c'est une opération extrêmement risquée. Troisième option, c'est une invasion complète de Cuba, qui présentent les mêmes risques sur le plan militaire si les Soviétiques sont déjà en mesure de tirer des engins, n'est-ce pas? Qui présenterait l'avantage de régler définitivement le problème de Castro. Puis la quatrième option, c'est celle d'un blocus maritime autour de l'île de Cuba pour empêcher les Soviétiques d'achever d'y transporter tous leurs armements et pour les forcer à retirer les armes déjà en place. Bon, je passe sur les détails des discussions internes. Finalement, le 22 octobre, Kennedy choisit la formule du blocus qu'on a appelé quarantaine pour des raisons juridiques. Parce que si on avait proclamé un blocus, les autres pays devaient soit se proclamer neutres, soit prendre parti pour l'un ou l'autre. C'était très compliqué sur le plan juridique international, donc on appelait ça une quarantaine. La marine américaine a annoncé que le lendemain, à partir d'une certaine heure, les bateaux soviétiques seraient repoussés, éventuellement par la force, n'est-ce pas? Bon. Et Kennedy ajoute le 22 octobre, dans un grand discours à la télévision, pour le peuple américain, et nous exigeons que les Soviets retirent leurs fusées. Alors à partir de ce moment-là, il va y avoir, à Moscou, beaucoup d'agitation. Politburo siège en permanence, les forces soviétiques et les forces des pays satellites sont mises en état d'alerte. Le 23, le 24, surtout le 24, on n'est pas loin d'un risque d'affrontement. Les commandants soviétiques à Cuba reçoivent l'ordre de se préparer à utiliser l'arme nucléaire tactique en cas de débarquement américain, n'est-ce pas? Donc la situation est extrêmement, extrêmement grave. Puis finalement, le 25 octobre, Khrouchtchev comprend que la situation risque de devenir incontrôlable à la suite de renseignements de services secrets qui lui prouve que les Américains sont vraiment décidés à employer la force s'ils ne cèdent pas, s'ils ne retirent pas ses fusées, et en particulier décidés à débarquer à Cuba. Or, malgré tout, l'équation nucléaire, l'équation conventionnelle est telle entre les deux pays que l'Union soviétique ne peut pas sérieusement penser faire la guerre pour Cuba. Elle pourrait certes détruire des villes américaines, mais elle serait, elle, totalement ratiboisée, si j'ose dire. Et d'autre part, elle n'a pas les moyens d'empêcher un débarquement américain à Cuba, étant donné que sa marine, son aviation à longue portée sont encore trop insuffisantes. Donc Khrouchtchev commence à céder, il adresse une première lettre, puis une deuxième lettre aux Américains, à Kennedy, et il propose que certes l'Union soviétique retire ses fusées, mais qu'en échange, les Américains, primo, s'engagent à ne pas envahir Cuba, donc à respecter Castro, et deuxièmement, qu'ils s'engagent à retirer leurs fusées de Turquie. Dans l'esprit des Soviétiques, s'ils évacuent leurs forces, mais que l'Amérique s'engage à ne pas occuper Cuba, et que Castro reste donc en place, et qu'en plus les Américains retirent leurs fusées de Turquie, ben finalement, estime Khrouchtchev, nous aurons gagné. Nous n'aurons pas gagné autant qu'on l'espérait, mais on aura quand même gagné dans l'équilibre général des choses. Alors, on se met d'accord le 28 octobre sur ces bases. Les Soviétiques retireront leurs fusées, pas le reste, hein, pas les armements conventionnels, mais retireront leurs fusées nucléaires. Les Américains prendront l'engagement de ne pas envahir Cuba. Formellement, finalement, ils n'ont pas pris cet engagement parce que Castro a refusé une inspection des Nations Unies qui aurait dû vérifier le départ des engins soviétiques. Mais dans la pratique, indépendamment des formes, les États-Unis sont engagés à ne pas remettre en cause le régime castriste. N'est-ce pas la différence de leur position précédente? Puis les États-Unis retireront effectivement quelques mois plus tard leur fusée de Turquie, sans en prendre, disons, ouvertement et officiellement l'engagement, hein, pour des raisons, disons, liées quand même à la nécessité de ménager la susceptibilité des Turcs, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, ils accepteront quand même l'échange. Alors à partir de ce moment-là, ça qui est fascinant, il y a deux lectures de l'issue de la crise de Cuba. Il y a la lecture occidentale, il y a une crise, on l'a gérée, on a gagné, les Russes ont retiré leurs fusées. Dans la guerre froide, on a gagné cette crise parce qu'on l'a bien gérée. Il y a la position des Soviétiques qui ont une autre lecture. Oui, nous avons évacué nos fusées. Oui, nous n'avons pas obtenu le grand marchandage avec Berlin, etc. Mais nous avons sauvé Castro grâce à cette crise qui maintenant reste, se trouve garantie, va pouvoir servir de relais, d'intermédiaire vers toute l'Amérique du Sud pour des mouvements révolutionnaires. Et nous gagnons donc à long terme, n'est-ce pas, dans la crise. À la limite, tout le monde est content, finalement. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes visions de l'affrontement Est-Ouest et des relations internationales des deux côtés. On voit la crise, la gestion des crises du côté américain. au niveau stratégique et politique, on voit du côté soviétique beaucoup plus l'action révolutionnaire, les perspectives révolutionnaires à long terme dans l'ensemble du continent sud-américain.
Est-ce que, et ce sera le mot de la fin, cette crise de Cuba ne marque-t-elle pas la fin du bluff nucléaire ?
Alors, la crise de Cuba, elle va peut-être pas tellement marquer la fin du bluff nucléaire qu'engager à la fois les Américains et les Soviétiques dans un processus de négociation qui n'a jamais cessé depuis en matière d'armement nucléaire. Parce qu'on a compris que l'armement nucléaire n'est pas utilisable pour les opérations offensives. Il peut être une garantie dissuasive pour empêcher un adversaire de chercher à gagner un avantage dans la guerre froide. Mais les deux potentiels, finalement, s'équilibrent approximativement. Donc, la conclusion, c'est que l'affrontement Est-Ouest doit être géré par les Américains et les Soviétiques en dessous du seuil d'une guerre nucléaire, et que pour garantir, pour se prémunir contre le risque d'une dérive et d'une guerre nucléaire par escalade progressive, il faut alors négocier des deux côtés une série d'accords nucléaires. Les Américains y croient beaucoup, c'est l'arms control, maîtrise des armements, mot à mot, n'est-ce pas, procédure de négociation, processus de négociation qui va commencer dès 1963. Les Soviétiques y croient moins, ou plus exactement pour des raisons plus tactiques, pour réduire leurs dépenses stratégiques qui sont pour eux très lourdes, pour se voir reconnaître un statut de grande puissance égale par les États-Unis, pour afficher une sorte de relation spéciale américano-soviétique utile pour eux dans le reste du monde, n'est-ce pas ? Mais peu importe, même si les motivations ne sont pas les mêmes, le dialogue nucléaire se poursuivra des deux côtés. D'autant plus que Khrouchtchev a quand même compris lui aussi que l'arme nucléaire n'est pas un instrument pour la révolution. Il y a un échange fameux avec Castro, qui lui est furieux. Castro estime qu'on a laissé tomber, qu'on lui retire les armes qu'on lui avait promises, n'est-ce pas ? Et Castro écrit à Khrouchtchev, mais nous étions prêts à mourir. Et glorieusement, n'est-ce pas ? Et Khrouchtchev lui répond, je ne doute pas une seconde, que les Cubains n'étaient prêts à mourir dans un affrontement thermonucléaire. Mais le but du communisme, ce n'est pas de mourir, c'est de survivre pour gagner à long terme, n'est-ce pas ? Et cet échange explique très exactement sa stratégie à ce moment-là.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Georges-Henri Soutou, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne et que vous êtes l'auteur du livre « La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990 » aux éditions Fayard. Je renvoie donc nos auditeurs à ce livre et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.
Vous écoutez Canal Académie.
Mondialisation, régulation, privatisation, génétique, euthanasie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques participent aux grands débats contemporains. Ouvrez leurs rapports, découvrez leurs travaux, écoutez leurs analyses. Éclairage, l'émission destinée à vous faire comprendre le monde, notre monde, ses enjeux aujourd'hui et demain. Éclairage, c'est tous les jours sur Radio Canal Académie.
La suite de votre programme dans un instant.